entrée sans payer, l'émission mensuelle sur la gratuité et la culture libre. Et ça se passe où ? Radio Balade 101.8.
Magasin gratuit. Je prends ce que je veux et c'est gratuit. Voilà. C'est gratuit. C'est gratuit.
Bonjour à toutes et à tous. Après une longue absence de 6 mois, nous revenons tout frais, tout dispo pour propager la voie de la gratuité et de la culture libre dans l'émission Entrée sans payer. Alors, dans cette émission, on va bien sûr nourrir des réflexions sur l'économie non marchande et aussi alimenter plus généralement des débats divers et variés sur tout type de sujets. Donc, pour nous remettre dans le bain, on va explorer aujourd'hui un thème qui est celui de la marchandisation du travail social. Alors, phénomène complexe à double titre. D'abord parce que la marchandisation est un problème bien réel, mais qui n'est pas toujours simple à définir. Bon, ça ne sera pas l'objet de l'émission aujourd'hui, mais on pourra y revenir plus tard. Quant au travail social, de quoi s'agit-il ? Alors, je dirais que c'est un bien curieux objet, le travail social, qui a justement pour objet de faire de l'activité sociale relationnelle un travail et deuxièmement, de prendre l'humain et ses relations comme un objet de travail. Double facette du travail social. Donc, on va dire en somme qu'il opère, ce faisant, une double objectivation. D'abord, l'activité sociale vernaculaire, l'activité sociale courante, on pourrait dire, va se transformer en un temps de travail, en une activité mesurable, donc une activité, on pourrait dire, objective. Ce qui va ouvrir sa voie, une voie pour sa transformation en marchandise, sens marxiste du terme. De même, on peut dire que la connexion sociale, le lien social est objectivé et soumis à manipulation, à une tentative de transformation qui, là encore, va laisser le champ libre à la marchandisation. Alors certes, le travail social pourrait, au moins en théorie, se borner à épouser une approche exclusivement professionnelle qui serait non marchande. Dans des contextes de désaffiliation sociale, par exemple, il rétablirait un équilibre, aiderait à la reconstruction d'un réseau relationnel ou d'une assise économique avec, d'une part, son expertise et ses compétences, et d'autre part, sa volonté d'intervenir là où plus personne n'est en mesure de le faire. Voilà ce qu'il en serait dans l'idéal. Reste qu'un tel travail, dans le contexte actuel, peut difficilement échapper aux logiques marchandes et aux logiques étatiques. Dès lors, on va dire, la tentation est grande de marchandiser ce que les institutions appellent le public en le rendant, par exemple, captif, et dépendant des prestations proposées. Pareillement, dans des organisations financées de façon directe ou non, comment résister, on va dire, aux prescriptions et aux demandes insidieuses du financeur ? Comment ne pas être enclin à exclure de son champ d'intervention les amateurs, d'une part, et les organisations concurrentes qui viennent vous menacer dans votre autonomie économique ? C'est ainsi que des publics se retrouvent objectivés, catégorisés, piégés, enfermés dans des cases et soumis de la même manière que les travailleurs sociaux à des impératifs de rentabilité. Alors pour en parler, je suis allé interroger trois éducateurs-chercheurs qui travaillent dans la prévention spécialisée et avec lesquels nous avons créé et nous développons un laboratoire de recherche endogène qui s'appelle Ligne de crête. Alors, une recherche-action a émergé de ce laboratoire, le Boomerang, qui est un espace de gratuité mobile qui circule entre des quartiers populaires et réinterroge les notions de frontières. Essaie d'interroger également, hein, pour reprendre les termes de Dar Bouya, qui est sociologue et qui est à l'origine avec moi du projet et qui y participe activement, donc qui réinterroge les institutions du travail social qui fabriquent du tu peux pas, de la non-force sociale, et donc comment réinterroger ces institutions pour tenter d'aider les habitants et les jeunes à trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent et les en sortir. Donc écoutons-le évoquer dans un texte une réflexion autour de la question de la marchandisation du travail social. Il y a encore une dizaine d'années, la finalité de la prévention spécialisée était de travailler à sa propre disparition. Aujourd'hui, elle organise des opérations visant à assurer sa visibilité, son institutionnalisation. Le discours qu'elle élabore paraît en rupture avec sa vocation et ses principes fondamentaux. Elle semble vouloir quitter le monde associatif pour intégrer l'univers des institutions. Ce déplacement semble vécu comme un processus de changement inéluctable et nécessaire qui s'inscrit dans une logique de développement et de modernisation. Cependant, dans les faits, ce changement semble résonner comme un bouleversement structurel qui permet à la prévention de s'insérer dans des dispositifs de la politique de la ville, mais aussi dans le discours social dominant. Ce changement n'est-il pas le fruit d'une conversion idéologique? Sinon, pourquoi la prévention spécialisée change-t-elle de modèle d'organisation? La crise et les transformations organisationnelles qui perturbent les modes de pensée et d'action inscrits dans les finalités de la prévention spécialisée méritent dans ce contexte d'être interrogées alors même que le destinataire de l'action a changé dans la mesure où il se confond avec des donneurs d'ordre soucieux de répondre aux préoccupations politiques locales. Essentiellement sur un thème opposant jeunes de quartier, porteurs de troubles et locataires électeurs aspirant à la tranquillité publique. Cet usage de la prévention spécialisée ne risque-t-il pas de la transformer en profession mutilante, productrice de liens de dépendance, plutôt que de contribuer à la construction d'actions visant véritablement l'autonomie et l'émancipation des jeunes concernés par son action? Les institutions tendent à transformer les êtres en objets, et ce dans la mesure où le modèle social, introduit par la société de marché, s'autonomise et s'affirme à mesure qu'il évacue le statut social du travail dans sa fonction intégrative au profit d'une organisation qui trouve son principe dans la consommation et la croyance d'un développement indéfini de la croissance. Dans cette logique structurelle, les hommes et les femmes sont des instruments au service de la santé de l'entreprise, de sa capacité à garantir sa place dans le jeu du marché et de la concurrence. Dans cette perspective, les hommes et les femmes sont objets de dégraissage pour permettre à l'entreprise de mieux s'adapter aux variations et aux contraintes du marché. Les responsables et les experts tranchent dans le vif. Dans cette dynamique, les hommes et les femmes sont des variables d'ajustement destinées à optimiser le niveau de compétitivité des entreprises. Le travail ne vise plus à l'insertion des personnes dans le tissu social, notamment local, et la division du travail, chère à Émile Durkheim, ne régule plus le lien qui structure la cohésion sociale. Elle est au service de l'économie et du mode industriel de production. C'est la réalité, on ne peut rien y changer, me direz-vous. Certes, seulement c'est précisément au nom de cette réalité, souligné par le vocable mondialisation, que s'institutionnalise l'instrumentalisation des individus et le fatalisme politique qui forme l'arrière-plan de nos représentations sociales. Bien, alors maintenant nous allons faire une petite pause musicale et ensuite nous écouterons donc Tahar Bouya, Christophe Gibard et Sébastien Dousseau, trois éducateurs-chercheurs, nous parler de la question de la marchandisation du travail social. Thank you. Alors, tu as dit libre adhésion, anonymat et non-institutionnalisation. Est-ce que on constate un changement à ce niveau-là, Sébastien, qu'est-ce que t'en penses, hein?
Bah, effectivement, je pense que le mode de fonctionnement et surtout aussi de financement, en fait, de cette action qui est non obligatoire, hein, je rappelle, c'est une des rares actions qui est non obligatoire de la protection de l'enfance. Mmh. Chaque département, normalement, a des foyers de l'aide sociale à l'enfance, des MEX prévus pour pouvoir mettre des protéger des enfants s'ils sont en situation de danger. La prévention spécialisée, évidemment, qu'on n'en a peut-être pas besoin partout, et que c'est une mission qui n'est pas obligatoire. Donc il faut perpétuellement justifier, alors sur des temporalités de 3 ans, ou des fois 1 an, ou des fois 5 ans, mais en général c'est 3 ans à peu près, mais sur des cycles, il faut à chaque fois dire ce qu'on a fait pendant 3 ans pour pouvoir continuer à pouvoir faire notre travail. Donc, alors j'entends que la prévention spécialisée n'a pas forcément une vocation à perdurer dans le temps si un quartier ou le territoire où elle est mandatée a évolué, on va dire peut-être positivement, mais ça correspond pas, comme je dis, à une génération de jeunes. 3 ans, ça répond... C'est à peine le début d'une légitimité quand on commence, quand on installe une nouvelle équipe sur un quartier, c'est le moment où les gens vont commencer peut-être à repérer qu'il y a cette possibilité, il y a des travailleurs sociaux dans la rue qui peuvent peut-être être disponibles pour...
Tu veux dire que c'est du travail de
long terme. C'est un travail sur le long terme, sur le temps long.
Ouais.
Et c'est vrai que ça répond même pas au mandat politique qui, souvent, les quinquennats sont, comme leur nom l'indique, sont de 5 ans. Donc c'est assez particulier. Et je trouve que ça cristallise, ça crispe, excusez-moi, beaucoup de choses. C'est-à-dire que du coup, on travaille pas forcément sur le long terme du développement d'un quartier, mais on travaille pour dire, dans 3 ans, il faut qu'on ponde un truc pour pouvoir continuer de travailler. Donc déjà, il y a ces sortes d'enjeux qui sont pas forcément les plus adéquats, puis ça précarise clairement le travail qui est fait par les associations de prévention spécialisées, en fait. Parce que du coup, si on se dit on a un projet, mais il sera efficace dans 10 ans, eh ben, faut pouvoir rester 10 ans. Donc, ça précarise les salariés, ça précarise le travail. Alors, quand je dis ça précarise les salariés, ils retrouveront peut-être du travail dans les métiers dans le domaine du social, mais ça précarise l'action, je veux dire, de la prévention spécialisée. Elle peut être là, et puis un jour, du jour au lendemain, on peut décider, bah non, les gars, ça sert à rien ce que vous faites, on n'a plus de raison d'être. Or, je pense que les gens qui connaissent ce domaine un peu spécifique, quand même, de la prévention spécialisée, c'est pas tellement le domaine le plus enseigné dans les écoles d'éducateurs et de travailleurs sociaux. C'est un domaine un petit peu à part. Et c'est vrai que notre mandat est très particulier parce que, comme il l'a très bien expliqué, il n'est pas nominatif. Du coup, on a un mandat pour un territoire. Si un jeune ne veut pas nous parler, il a le droit de pas nous parler. Donc, ça va prendre beaucoup plus de temps de créer des relations. Par contre, elles sont souvent de bien meilleure qualité que lorsqu'on a un mandat. Que ce soit un mandat, je pense, judiciaire, quand ça va être de la délinquance, ou un mandat ASE, quand c'est de la protection de l'enfance. Mais là, la relation va mettre plus de temps à se construire, mais forcément, elle va être de meilleure qualité puisqu'elle est voulue par les deux parties, c'est-à-dire le jeune ou l'habitant et l'éducateur.
Donc, et ça aurait tendance à être un petit peu atténué ou limité par des logiques marchandes dans lesquelles
c'est ça. Alors,
le travail social, d'une manière générale, est en train de basculer, peut-être.
C'est ça.
Quelle est ton analyse?
Il y a deux aspects sur la marchandisation du travail social. Il y a l'aspect de ce que l'État veut plus payer directement. Quand on dit l'État, j'entends le pouvoir public, le département, la région, puisque la prévention spécialisée, comme l'a expliqué Tard, c'est la DASES, c'est le département depuis 1985, depuis les lois de décentralisation. Mais peu importe, je veux dire, le pouvoir public se désengage de certaines choses et confie ça à des champs du privé. On a par exemple une grosse structure qui s'appelle Aurore, donc qui est très bien, mais c'est une espèce de grosse machine qui monte comme ça, qui fait plein de choses formidables. Mais si demain ils ont plus les moyens, ou ils ont plus envie, ou ils se retirent, bah ça va laisser un grand vide. Et le problème que ça génère aussi, c'est que souvent, alors il y a la marchandisation, donc la mise en concurrence quelque part des acteurs,
oui,
du travail social.
Qui se passe comment?
Qui se passe beaucoup par, justement, ils sont mis en concurrence autour d'appels à projets, souvent, et de subventions. C'est un peu la course à la subvention. Il y a une subvention qui est proposée. À la base, c'était pas forcément malsain, parce que la subvention, elle émanait des habitants, du territoire. Elle émanait des demandes du terrain. Donc, effectivement, c'était cohérent. L'État a dit, nous, on paye plus directement, Par contre, effectivement, les habitants ont estimé qu'il fallait peut-être mettre des éducateurs, qu'il fallait peut-être mettre une association pour aider des jeunes à faire leurs devoirs ou à partir en vacances. Donc, on concevait, le pouvoir public, quelque part, concevait d'une manière ou d'une autre des subventions pour répondre à cette émergence du terrain. Ce qui s'est passé, c'est que depuis plusieurs années, et là j'en appelle à l'expérience de vous tous aussi, la subvention, elle part d'en haut maintenant. Elle part de la demande, ce qu'on appelle la demande politique, quelque part, il y a une demande qui est formulée. Là, par exemple, en ce moment, et je me souviens, ça me fait écho à une conversation avec un partenaire, sur le secteur où je travaillais avant, qui me disait, mais je comprends pas, ils ont pas accepté mon dossier de financement, de subvention. Et il m'avait proposé de jeter un coup d'œil. Et en regardant, je dis, c'est normal, il manque les mots magiques. Tu parles pas d'insertion professionnelle. Il n'y a pas de projet éco-durable, éco-machin, c'est dans la tendance. Et je lui ai dit, il manque quelques termes. Il n'y a pas d'innovation. Qui est utilisé un peu à toutes les sauces. Et je lui ai dit, il manque ça. Donc, ton projet, il peut être formidable. Il peut avoir un vrai intérêt.
Tu veux dire qu'il y a une certaine.
Ce que tu veux faire dans le quartier auprès des jeunes, enfin, ou des familles. Mais il répond pas à la demande publique. Et en plus, parce que là, je lisais aussi un article, j'ai vu que c'était d'une personne que j'ai bien connue dans mon cadre professionnel, effectivement, et en plus, la manière dont cet argent est donné. Cet argent est donné, mais du coup, il faudra justifier comment on l'a utilisé. Ça part d'une demande donc descendante, et il faudra justifier selon des critères essentiellement quantitatifs et de moins en moins qualitatifs. Et donc, il y a une mise en concurrence des acteurs associatifs ou des acteurs sociaux, médico-sociaux, non seulement, et il y a cette mise en concurrence, et en plus, il y a une évaluation du travail qui est fait avec cet argent public, avec ces subventions, qui ne va pas être forcément la bonne, parce qu'on va privilégier d'abord le quantitatif au lieu de privilégier le quantitatif. Et enfin, pour conclure, et le qualitatif, autant pour moi, et pour conclure, il y a aussi un deuxième aspect qu'on voit, je pense, apparaître assez facilement, et moi, dans mon entourage, toutes les personnes qui sont dans le travail social, dans des domaines très différents, que ce soit le handicap, que ce soit la protection de l'enfance, la prévention spécialisée ou d'autres domaines, on constate bien aussi que ça s'accompagne souvent d'une concentration de force et de moyens sur une problématique et du coup au détriment des autres. Ce qui est un peu quand même la grande force de la prévention spécialisée à la base. Mettre des éducateurs dans la rue pour travailler avec un public plutôt jeune, 12-21, 10-25, forcément qu'on a un intérêt à travailler avec des parents, à travailler sur de l'intergénérationnalité, à travailler sur des formes de vivre ensemble, on va dire, des formes de coopération pour améliorer le contexte de vie des enfants, puisqu'on a un mandat territorial. Et nous-mêmes ici, je pense qu'on peut le dire sans se cacher, on essaye, via le laboratoire Ligne de Crête, de développer les concepts de développement endogène et de voir sur quel levier on peut agir pour faciliter la montée en compétences et en des habitants et des jeunes des territoires sur lesquels nous sommes. Ce deuxième point, c'est qu'à un moment donné, on va donner une subvention pour un public particulier, pour une mission particulière. Je vais prendre un exemple qui est très connu dans notre métier, l'insertion professionnelle. Qui veut l'enveloppe pour monter un projet d'insertion professionnelle? Mais du coup, ça veut dire qu'on va, c'est formidable hein, de travailler sur ce domaine-là, mais du coup, on va forcément, sans nous le dire d'une manière formelle, on va nous faire comprendre qu'il faut quand même plutôt faire en sorte que des jeunes soient dans des processus d'insertion professionnelle parce qu'on a touché un financement pour ça. Donc, on va beaucoup essayer d'impliquer les jeunes dans des chantiers éducatifs, dans des accompagnements vers la mission locale ou les acteurs spécifiques. Mais au détriment, du coup, pendant cette période, peut-être de ceux qui ont des problèmes autres et de ceux qui n'ont pas encore de problématiques.
Tu veux dire qu'en fait, cette marchandisation du public a fait que certains publics sont plus rentables, entre guillemets, que d'autres? Alors, est-ce que tu irais jusque-là ou...
Alors, j'irais jusque-là. Ça se voit peut-être pas encore dans la prévention spécialisée, parce qu'il y a aussi quand même une majorité des gens, je pense, qui ont une forme de militantisme par rapport à leur travail et qui le font en réfléchissant et en s'impliquant certainement avec des valeurs tout à fait bienveillante, mais je l'ai vu dans un autre aspect, dans le monde du handicap, où effectivement il y a des structures, des établissements très spécialisés pour accueillir des publics effectivement extrêmement particuliers. Je pense notamment aux enfants qui ont des troubles du comportement. Et ben, je peux vous dire qu'en fonction du taux d'invalidité ou des capacités qu'un enfant peut avoir et des difficultés qu'il a ou qu'il n'a pas, effectivement, on va accepter ou pas la demande de prise en charge d'un enfant. Parce que bah là, ça peut être des financements différents, ça peut être une participation de la sécurité sociale, du département, de la préfecture. Mmh. Des fois, nous, dans le cadre de notre métier, on peut avoir des fonds, des subventions européennes, etc. Mais du coup, bah, y a un moment donné, et clairement, il y a des personnes qui vont pas être accompagnées. Et je crois, il me semble que c'est quand même un peu plus mis en évidence dans le domaine du handicap, parce que bah ils rentrent pas dans la rentabilité, c'est du prix de journée, quoi. On accueille quelqu'un dans un établissement, c'est tant de prix de journée, on dit, ah bah non, mais lui, là, ça va être difficile de justifier sa présence. Mmh. Donc, en prévention spécialisée, on a fort heureusement encore la capacité de pouvoir travailler aussi, puisqu'il y a prévention avec des jeunes qui sont pas encore dans des problématiques aujourd'hui, et d'où on a encore la légitimité et la possibilité de travailler un peu avec, j'ai envie de dire, avec toutes les typologies de jeunes et de personnes qu'il peut y avoir sur nos territoires, mais j'observe bien, et y compris avec des collègues qui sont dans d'autres associations que la nôtre, qu'à un moment donné, il y a des focus comme ça qui vont être mis sur une problématique particulière et qui se fait forcément un peu au détriment des autres.
D'accord.
Ne serait-ce que sur une période donnée.
En fait, ça serait il y aurait presque une hiérarchisation des problématiques et des publics en fonction de leurs valeurs. En fonction d'où tombent les subventions, on va dire,
Tout à fait, ça rejoint un peu, moi des fois ça fait écho, sans être attention sur une démarche négative, hein. Mais ça rejoint un peu ce qui avait été demandé à une époque, je crois, à la police nationale, ça veut dire de réaliser des quotas. Pour moi, c'est pas le sens, c'est pas ce que j'attends. D'un gardien de la paix, je veux dire. Bien sûr que les forces de l'ordre sont là pour verbaliser, pour faire du répressif quand il y a besoin, bien évidemment. Mais ils sont aussi là pour prévenir, ils sont aussi là pour protéger. À un moment donné, on leur a demandé de ramener des quotas. Donc forcément qu'ils ont dû cibler, j'imagine, leur regard et leur attention sur on va verbaliser ce qui est verbalisable et pas sur on va protéger ce qu'il faut protéger. On n'est pas encore dans cette extrémité, enfin je l'espère, dans notre cadre professionnel. Mais je remarque quand même qu'il y a des fois une concentration des forces, des moyens humains, matériels et des énergies sur une problématique liée à l'école, sur l'insertion professionnelle. Nous, on travaille avec des jeunes, des fois, aller leur proposer un emploi, une petite mission, des rendez-vous à la mission locale, ça n'a aucun sens vu les situations dans lesquelles ils sont.
We'll be right back.
Christophe, toi, du coup, tu défends donc le développement communautaire, hein, il me semble, c'est le terme exact, ouais.
Et
l'organisation, et il me semble que ça va quand même à contre-courant de cette tendance, dans le sens, c'est, l'idée, c'est plutôt de faire émerger la problématique directement du terrain, quoi.
Enfin, après, je sais pas ce qu'on, ce qui est derrière marchandisation du travail social. Mais il y a ce que décrivait Sébastien, c'est que les politiques publiques, elles procèdent souvent, elles procèdent de deux manières. C'est un peu caricatural, mais c'est pas dire schématique plus que caricatural. Il y a tout ce qui est processus descendant, la tendance, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français tout ce qui est l'ordre du droit commun. Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place sur la France entière. Je pense aux aides au logement. Donc ça, c'est des process descendants et c'est des droits qui peuvent être mobilisés par toute personne en fonction de ses ressources. Et pour moi, ça a son utilité. C'est ce qui a permis en France de fabriquer un filet de protection sociale où les mailles, elles restent encore assez serrées. Moi, j'ai voyagé au Brésil et dans d'autres pays où on voit des pays où on a des États avec des politiques publiques qui sont assez faibles parce que peu alimentées en ressources. Et on voit quand même énormément de personnes qui passent au travers de ces mailles. La pauvreté endémique, Donc, il y a le droit commun, ces politiques publiques qui ont été mises en place et qui sont quand même protectrices. Et ces politiques publiques, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles s'appliquent partout sur le territoire un peu de la même façon. Et si on ne conçoit les politiques publiques ou l'intervention humaine pour résoudre des problématiques sociales que de façon descendante, on peut se priver en fait de ressources qui sont les ressources des personnes elles-mêmes qui vivent ces problématiques et qui vivent sur des espaces, des territoires avec des conditions particulières et des ressources particulières. Et l'idée, c'est comment on peut aussi, comment peuvent se fabriquer des réponses par rapport à des problématiques qu'on peut vivre sur un territoire au quotidien. Ça peut être des groupes de maires qui voudraient, l'appétence, l'envie de voir grandir leurs enfants dans de bonnes conditions et de pouvoir faire en sorte que sur ce territoire, les familles puissent trouver les ressources en équipement, en animation, en présence humaine sur le territoire, de pouvoir aménager, mettre en place des dispositifs, mais à partir de ce que ces personnes-là identifient comme problématique importante pour elles, là où elles ont soit des aspirations fortes, des envies fortes, des désirs forts. Les personnes vont avoir envie de se mobiliser un moment pour des aspects de la vie qui leur semblent importants, prioritaires, et peut-être en laisser d'autres de côté. Donc, travailler à partir d'aspirations et puis à partir de la capacité aussi des personnes à problématiser. C'est-à-dire que il y a souvent parfois le travers que peuvent avoir les politiques publiques descendantes, c'est de passer à côté des ressources, des aspirations des personnes et des capacités de ces personnes à produire des réponses adaptées parce qu'ils ont une connaissance du territoire. Ils ont une expertise. Alors, je le mets entre des guillemets parce que ce mot-là, il est tellement galvaudé. Une expertise. Certains parlent d'expertise d'usage. Et pour moi, la prévention, elle s'inscrivait dans ce courant-là de partir pour l'élaboration de réponses, d'actions du milieu. C'est-à-dire on travaille dans et avec le milieu. Et le travailleur social, lui, il apporte pas la réponse comme on peut avoir un dispositif tout bouclé avec il travaille plutôt à créer des conditions pour que ce soit les personnes qui petit à petit vont trouver les chemins pour mobiliser les ressources, articuler les ressources qui peuvent mobiliser les compétences pour construire des réponses. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle plus les processus ascendants qui partent du territoire et des personnes.
Est-ce que ça peut pas être un peu freiné cette façon de faire par ce dont parlait Sébastien, savoir l'entrée dans des logiques marchandes qui font finalement les personnes sur un territoire vont être instrumentalisées.
C'est ce qu'on a pu constater, parce qu'il y a toute une partie de l'action dans le travail social en France, l'intervention sociale, il est souvent né du terrain, de la société civile, que ça soit pour certains métiers ou certaines, c'est plutôt une veine qui était une veine religieuse avec les dames patronesses, la prévention spécialisée ou l'éducation populaire qu'a donné les centres sociaux, tout ça. Ça, c'est parti plutôt d'organisations de la société civile, syndicale, ouvrière, militante de base d'un côté, qu'ont élaboré des réponses, et ces réponses, elles ont été abondées et financées. Et c'est souvent au moment où rentre le financement public, où rentre un jeu d'acteurs, où il y a à la fois les politiques, les financements publics, on passe par une validation politique, il faut que ça rentre dans un programme, ça fait appel à des ressources publiques, donc à l'impôt, donc à l'intérêt général, et les personnes qu'on délègue pour arbitrer ces questions-là, donc le politique, ça passe aussi par le technique, ça veut dire que dans les services de l'État, il y a aussi des techniciens, des gens qui sont payés pour penser, élaborer ces réponses-là, et ça passe aussi par les citoyens et par un jeu de force entre ces trois pôles. Et c'est un moment parfois ça va tirer vers plus dans un sens ou ça va tirer vers certaines logiques, notamment ce qu'on nomme aujourd'hui logique gestionnaire, ou ce qui importe de plus ce qui importe aujourd'hui dans une économie générale où on nous dit qu'il n'y a plus d'argent. On est quand même dans un pays qui arrive encore à capter un peu plus de 50% de la richesse produite pour la redistribuer. C'est ce qu'on oublie, c'est que la France reste un pays hyper redistributif. Après, c'est comment on utilise cet argent et selon quelle logique. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand le financement public se met en place, que les solutions s'institutionnalisent, Ça, y a
donc est-ce qu'il n'y aurait pas du coup une piste à explorer éventuellement
pour finir là-dessus, les mécanismes qui ont été un peu identifiés, c'est qu'au bout d'un moment, les structures, quand elles reçoivent des financements, elles peuvent avoir tendance à vraiment à fonctionner, à s'organiser plus pour maintenir leur survie en répondant à la demande du financeur, du politique, plus que à ce qui ressort et aux aspirations ou aux besoins du terrain ou à l'efficience réelle des réponses. On est plus sur les représentations et on se retrouve parfois avec des organisations où on a un décrochage entre ceux à l'intérieur, par exemple d'une association, fonction de négocier les financements et les personnes qui travaillent en première ligne sur le terrain, qui eux voient remonter un certain nombre d'aspirations, des demandes, des besoins, et parfois ça a du mal à se rencontrer entre la conception que peuvent avoir les financeurs avec leurs techniciens, qui sont un peu dans des logiques top-down, et parfois ça...
Il peut même y avoir peut-être une tentation d'en profiter pour mettre en place des dispositifs de contrôle des populations.
Dispositifs de contrôle, ce qu'on a vu beaucoup à travers les appels d'offres avec la logique gestionnaire, il faut trouver des solutions pour que ça coûte moins cher, pour qu'il y ait, quand on dit plus de sorties positives dans le domaine de l'insertion, il faut de la sortie positive, ça veut dire des jeunes qui sortent avec une formation et un emploi, et on prend ce critère-là comme étant le critère de la réussite de l'efficience du dispositif.
Et tout ce qui va sortir de ça sera en quelque sorte on impose des finalités qui sont celles d'une économie de marché des problématiques qui sont pas forcément
on a ce critère-là puis on va construire des appels d'offres autour de critères comme ça, et ça va être celui qui va aller qui va proposer des réponses qui correspondent aux critères imposés par les financeurs. Et on oblitère en fait les processus où on mettait de la ressource, des moyens pour laisser émerger les réponses des territoires, des terrains, des personnes. parcours ou si tu veux, l'après, je l'ai rencontré dans le quartier où j'ai grandi. Étant moi ado, un ado un peu agité, et avec un réflexe qu'ont eu la génération qui était la génération de mes parents. Moi, j'étais avec une mère seule qui élevait trois enfants. Et on arrivait, nous, dans cette période-là, période d'adolescence, avec une grande sœur qui avait essuyé les plâtres et qui était plutôt carrée. Ouais, qui était entre deux et qui partait un peu dans tous les sens. Dans le quartier où j'ai grandi, qui est un quartier de la banlieue sud de Paris, il y a eu une prise de conscience, un choc qui s'est fait dans ce que moi j'appelle les concepts que je mobilise communauté. Communauté, hein, c'est pas communauté ethnique, c'est des gens qui à un moment vivent sur un même espace. Et il se passe quelque chose qui font qu'il y a une colle qui prend entre ces personnes-là. La colle qu'a prise un moment dans ce quartier, c'est à Bagneux, hein, en banlieue sud, c'est la génération qui était avant la mienne un peu plus âgée, une époque où circulait beaucoup l'héroïne, c'était et il y avait toute une génération en fait qui avait pris cher, avec dans beaucoup de familles du quartier des séparés overdoses, règlements de compte, morts violentes dans des accidents de la route, moto et autres, beaucoup d'incarcération, une génération qui avait pris très cher. Et nous on arrivait notre génération, on arrivait derrière et là, à un moment il y a eu c'est passé sur un été ou en une semaine, il y a eu trois décès. Et ça a créé un espèce de choc dans le quartier. Et des familles qui se sont retrouvées, il y avait un centre social, qui était un centre social autogéré à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe professionnelle très restreinte, mais toute la vie du centre et l'animation du centre, elle se faisait par des habitants. Il y a eu une mobilisation de ces personnes-là qui se sont dit comment on peut gagner enfin la question c'était on a l'impression que c'est en train de nous échapper. Ce qui est le plus cher pour nous, c'est ce qu'on a mis sur terre, nos enfants là, c'est en train de leur vie et les chemins qu'ils prennent nous échappent, ils prennent des chemins où on les perd. Comme disaient certains, on finit par marcher sur la terre dans laquelle est enterré nos enfants, alors que ça devrait être l'inverse, la logique de... Il y a eu des opportunités, notamment il y avait dans ce centre social-là une assistante sociale chilienne qui est arrivée avec toute la méthode d'organisation communautaire. C'est-à-dire comment on crée des conditions qui facilitent l'organisation des personnes pour faire face à un problème auquel ils sont confrontés. Et au Chili, dans les pays où justement on n'a pas un état-providence solide, si les gens ne s'organisent pas, et ben ils s'en prennent plein la gueule. Donc il y a des habitudes et il y a des méthodes, et ça a été après travailler avec des universitaires et autres. Elle arrivait avec, entre guillemets, cette technologie-là. Et en fait, elle a proposé aux habitants de passer par un process où ils ont fait, pour moi, ça apparente à de la recherche-action, où ils ont d'abord fait des enquêtes, une enquête participative, où des habitants se sont formés à aller passer les entretiens auprès d'autres habitants sur les aspirations qu'ils avaient, les craintes qu'ils avaient, les préoccupations. Donc il y a eu tout un travail de mobilisation. Et à partir de là, ont fini par émerger. Alors, d'abord, la première chose qu'ils ont voulu faire, ses parents, ça a été de se former et de monter en connaissance par rapport à ces problématiques de drogue. Donc, ils ont fait défiler devant eux. Ça a duré, je crois, 3 ou 4 mois. Et tous les mercredis soirs, dans l'école du quartier, ils faisaient venir le juge, le psychologue, un représentant de la brigade des stupes, ils ont fait venir un géographe, ils ont fait venir un sociologue, il y avait Chambardolo qui était venu, tu vois, parler des expériences en Amérique du Sud, d'auto-organisation,
D'accord.
Et à partir de là, donc, et à partir de là, en fait, ils ont fait le choix. Alors, ils se sont saisis de d'une réponse déjà institutionnalisée un peu, un club de prévention. Ils ont créé un club de prévention. Ça a été une merde noire, hein, ça n'a pas été simple. Parce que après, les habitants, ils ont dû gérer le rapport avec des professionnels, et ça n'a pas toujours été facile. Voilà, donc, et moi, je viens un peu, si tu veux, pour moi, c'est aussi, moi, ce qui m'a permis un peu de... Moi, j'étais en échec scolaire, tout ça, et à un moment de mon parcours, j'étais à la rencontre de ces adultes qui s'organisaient et faisaient des choses pour nous, c'était assez étonnant. Et ces adultes, ils ont eu un super réflexe vis-à-vis de moi. Enfin, il y a quelque chose qui, moi, m'a un peu sorti de... c'est que ce que dit Tahar, c'est que j'ai eu des adultes qui m'ont fait comprendre que je pouvais être. Moi, j'étais en échec scolaire, dyslexique, je pensais que ma pensée, elle n'avait pas de validité, ou elle avait une validité, mais dans un espace très restreint, celui du quartier, mon réseau de copains, où je pouvais... Et ils m'ont fait comprendre que ma pensée pouvait être valide sur des espaces plus larges que celui-là, au niveau social, au niveau... J'ai rencontré des militants religieux, un prêtre ouvrier, des militants politiques, il y avait les cellules de PC à l'époque, qui étaient encore assez actives dans les quartiers. Et ça m'a mis sur une autre piste, dans une autre ambiance, dans un autre mood.
Dimmi chi sei, che cosa fai?
Cerco Michael Costume,
il mio nome è Dino Smash, vincerò Smash.
Sono come me, come te.
Negli occhi non mi guardano, chissà che cosa pensano, si scandalizzano.
Nel modo di pensare, di parlare e di guardare.
In tutto quel che faccio io mi sento come un rat.
Perché appunto al suo obiettivo.
Senza distruggere niente col suo modo sopravvivere.
Per spiegare a tutti che
sono come me, come te.
Negli occhi non mi guardano,
chissà che cosa pensano.
Non mi guarda, se gli pongo la mano lui si scansa e scappa dritto nella sua stanza. Continuo il mio cammino, il tempo si è fermato e io mi sento un po' cretina. Ma cosa sto facendo con l'ombrello nel castello, se qui non piove, non tira vento.
Il mio nome è Rino Smash, vincerò questo match.
Tipo stop, questa bella caga pochi non taca la maca lì sul sim su questa caga pochi.
Come voi, ma non lo capirete mai. Avrei bisogno di un sorriso, non di un calcio dritto in viso. C'è tanta gente che ti prende per il culo e con gli amici poi ti risponde vaffanculo. Da tanto tempo c'è chi ha scoperto come me che il mondo è proprio strano e non si sa perché. Io sogno un mondo bello che più bello non ce n'è. Poi infine vedo questo e ne deduco che
il nuovo millennio sarà così. Comunicare via internet fino a cani gatti. Il nuovo millennio sarà così. Comunicare via internet fino a cani gatti.
Il mondo è strano, ma se gli tendo la mia mano, non è cattivo se lo prendo per il lato positivo. Il mondo è strano, ma se gli tendo la mia mano, mi gira intorno e cambierà di giorno in giorno. Il mondo è strano, ma se gli tendo la mia mano.
Des solutions, je ne sais pas si c'est une solution, mais c'est quand même la démarche d'intégrer un labo in situ dans une structure, c'est intéressant parce qu'on sort du sentiment d'impuissance. Donc l'idée, c'est comment on cherche à produire du sens, à comprendre, puis collectivement, comment on rencontre le terrain, comment on rencontre les autres et comment. Voilà. Et donc nous, sur le digne de crête, le labo qu'on a créé ici, c'est
La question, c'est, et puis dans le même bouquin, c'est, la question, c'est comment les dispositifs, on en a parlé, une association, un département, une ville, ce qu'on voudra, une école, fabrique des tu-peux, des tu-peux pas. C'est-à-dire des gens dépendants ou des gens autonomes.
Ouais. Voilà. Mmh.
Donc de la force sociale, de la non-force sociale.
Mmh.
Donc voilà, donc ces questions me paraissent essentielles pour produire de l'émancipation, parce que c'est ça la valeur du moment, c'est un peu celle-là. Hein. Après, sur le temps long, le temps court, c'est compliqué, l'idée, c'est que le temps court, là, il est un peu induit par les actionnaires.
Ouais.
Donc il faut que le temps soit rentable. Voilà. Mmh. Donc on est tous pris là-dessus. Et donc,
renouer avec un temps long. Ouais.
Donc comment renouer avec un temps long ou un temps qui ne soit pas.
Qui soit plus géré, quoi.
Qui ne soit pas marchand, quoi.
Ouais.
Qui soit pas, qui échappe à la marche.
Bon, bah merci beaucoup, Tala. Donc.
Merci à vous. Hein.
Ouais. Merci toi, Sébastien. Benjamin. Et merci Christophe. Donc on se retrouvera peut-être pour une prochaine émission. Voilà.
Plaisir.
Et à bientôt sur Radio Balade, donc dans l'émission Entrée sans payer.
I ain't gon' stop, I pop my roof, I ain't giving my mans up. And I ain't get shot by cops that shoot no little handguns. Big ol' Benz, big ol' Benz truck. Big ol' Benz, a big ol' Benz truck. I ain't gon' stop, I pop my roof, I ain't giving my mans up. And I ain't get shot by cops that shoot no little handguns. Big ol' Benz, big ol' Benz truck. Big ol' Benz. Flashing, cops used to watch and harass me. Came a long way if you ask me. All of my fits are clean. Had a kazoo be the jeans. Used to be ashy. Bitches ain't never get at me. Now they don't wanna get nasty. Niggas ain't fit for this fabric. Fucking more bitches than magic. Ay. Brand new SRG. I turn Christian and he lose. Oh, Bloody Mary on that scene. Boy, you broke, you talking money. Ain't got nothing in your jeans. He ain't nothing like IG. He got a clout chasing disease. Bitch, call your friends up. Her ass so fresh, she back it up just like a Benz truck. Big ol' Benz, go get your Benz up. Ra-ta-ta-ta-ta, when he ran up. That's all he heard when he got blamed up. Big ol' Benz truck. I ain't gon' stop, I pop my roof, I ain't giving my mans up. And I ain't get shot by cops that shoot no little handguns. Big ol' Benz, big ol' Benz truck. Big ol' Benz. Big ol' Benz truck. I ain't gon' stop, I pop my roof, I ain't giving my mans up. And I ain't get shot by cops that shoot no little handguns. Big ol' Benz, big ol' Benz truck. Big ol' Benz. Hop in the Benz, skirt off. Your bitch in the back while she taking her shirt off. Mommy go flex, bird off. High speed chase, I turn in to take off. We on a run, Saquon. Big old Benz, it's too much to hate on. I'm feeling tipsy, Jaquan. I'm finna shoot till I dumb bitch to get on. I feel like the top boy. You need permission to shop. I love when I run in the ops. They say I'm more like a hot boy. Remember I was just a block boy. Big old Benz, open up shop. I was broke, I'm on top. I love when they start to pop. I'm smoking niggas like pop boy. Hey, big old Benz truck. I ain't gon' stop. I pop my roof, I ain't giving my mans up. And I ain't get shot by cops that shoot no little handguns. Big ol' Benz, big ol' Benz truck. Big ol' Benz, ain't big ol' Benz truck. I ain't gon' stop, I pop my roof, I ain't giving my mans up. And I ain't get shot by cops that shoot no little handguns. Big ol' Benz, big ol' Benz truck. Big ol' Benz.
Voilà, donc l'émission Entrée sans payer se termine. Toute la musique que vous avez entendue a été téléchargée sur la plateforme Jamendo. Vous avez écouté notamment, ou vous avez échappé à l'écoute de Anton Kowalski, Ralph Dagod, Ben Strzok, Feature SWA, oula, compliqué à dire, Magma, Eric DJ, DJ Brutus, Cooperativa Social et Jazz Rage. Donc vous trouverez tous ces morceaux, tous leurs morceaux sur Jamendo. Voilà, il me semble qu'il y en a un ou deux qui ont été rajoutés, enfin c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été mis finalement. Donc mais c'est pas grave, ça vous fera découvrir le musicien en question ou la musicienne. Et on vous dit à la prochaine fois. Je vous dis à la prochaine fois. La prochaine fois, on abordera la question de l'art libre en vous présentant. Une expo d'art libre et ouvert et nomade. Et oui, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, on le verra la prochaine fois. À très bientôt sur Radio Balade.